Aux États-Unis, Amazon, Facebook, Uber et Pfizer s'engagent à embaucher des réfugiés afghans. Une trentaine d'entreprises américaines participent au programme d'une ONG visant à intégrer par le travail les réfugiés afghans arrivés aux États-Unis et seront en soutien à la vision à long terme du gouvernement américain. De grandes entreprises américaines telles que Amazon, Facebook, Uber ou encore UPS se sont engagées à embaucher des réfugiés afghans dans le cadre d'un programme visant à intégrer ceux-ci dans la population active américaine. Airbnb propose d'héberger gratuitement 20 000 Afghans dans le monde. 34 entreprises ont rejoint la coalition pour les réfugiés afghans, Coalition for Afghan Refugees de l'ONG Tent Foundation. Ses membres se sont engagés à aider à intégrer les réfugiés dans l'économie américaine en les formant et en les embauchant. Parmi ces entreprises figurent Facebook, Uber, UPS, Pfizer, TripAdvisor, Western Union, Hilton Gap, Mastercard ou encore Amazon. Cette dernière, par exemple, formera et embauchera des réfugiés afghans pour travailler dans ses entrepôts et centres de transport. Le géant de la vente en ligne s'est vanté de recruter continuellement des immigrés et des réfugiés dans l'ensemble de l'entreprise et s'est engagé à poursuivre ses efforts en notant le besoin imminent de réfugiés afghans, comme le relève Fox Business. Le moment où un réfugié obtient un emploi, c'est le moment où il cesse d'être un réfugié. Cet effort donnera aux Afghans qui commencent une nouvelle vie en Amérique les moyens de se prendre en charge en soutien à la vision à long terme du gouvernement américain en matière d'intégration économique et sociale, a déclaré la Tent Foundation sur son site Internet. Hamdi Ukulaya, PDG de la marque de produits laitiers Chobani et fondateur de cette ONG, a déclaré dans un communiqué « Chaque partie de notre société doit jouer son rôle pour accueillir nos frères et sœurs afghans. Ils se sont tenus à nos côtés et nous devons nous tenir à leur », a-t-il ajouté, en estimant que le moment où un réfugié obtient un emploi, c'est le moment où il cesse d'être un réfugié. Les États-Unis auraient évacué plus de 65 000 Afghans lors de leur chaotique retrait d'Afghanistan en août dernier. 24 000 d'entre eux seraient arrivés aux États-Unis. La France ne domine pas l'accès à l'espace, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde le font. La France ne contrôle pas les voies de communication maritime, les États-Unis, la Chine et la Russie le font. La France ne fournit certainement pas la majorité des produits finis, la Chine le fait. Et la France ne domine certainement pas l'industrie de l'armement de haute technologie, les États-Unis, la Russie le font. Même si l'on imagine que demain, la Marine nationale ajoute deux autres porte-avions à propulsion nucléaire à sa flotte, cela ne fera toujours pas de la France une puissance mondiale. Militairement et économiquement, la France est une puissance de second rang qui a cédé une partie de sa souveraineté à des organisations supranationales telles que l'OTAN et l'UE, qui ne remplit donc pas le critère le plus important définissant une puissance mondiale ou une superpuissance, des politiques mondiales totalement indépendantes et protégées. La France n'est pas non plus capable de créer et de maintenir une quelconque alliance significative par elle-même. Les États-Unis et la Russie le peuvent, tandis que la Chine, en raison de son énormité économique et démographique, est une alliance en soi. De plus, la Chine et la Russie ont des alliances entre elles. Donc, dans ce dernier cas de figure, étant une puissance régionale de second rang, la France ne peut pas s'attendre à ce que ses intérêts soient sérieusement pris en compte lorsque l'on parle de projets aussi immenses, financièrement parlant, que l'OCUS. Soit, mais elle peut au moins se payer le luxe de choisir le camp qui assure ses intérêts, celui des Américains, le fait. Le nucléaire iranien, encore le dossier libanais, lui avait procuré une chance inouïe, mais la France n'en a pas voulu. Pourquoi? Car elle refuse de capitaliser cet énorme potentiel qui est ses liens historiques avec le Maghreb et le monde musulman n'ayant qu'une vision sionisée de l'islam, ou alors quand elle le fait. C'est vers la partie la plus sionisée du monde musulman qu'elle se tourne. La grandeur perdue de la France ne passe-t-elle pas à travers de grosses reconsidérations dans ses alliances? Le Drian l'a dit, mais entre l'acte et la parole française, il y a toujours un écart. Espérons que Locus va changer la donne. Est-ce que la France se contentera des miettes, des avions de chasse finlandais à la place, de sous-marins australiens et d'avions suisses? La Maison-Blanche, qui était intervenue secrètement auprès de la Finlande pour gagner l'appel d'offres de ses avions de combat, pourrait laisser gagner la France en dédommagement de la rupture de son contrat de sous-marins conventionnel avec l'Australie. Selon Politico, une quinzaine de parlementaires américains, menés par Mark Vaezi et Michael Turner, avait obtenu le soutien de la Maison-Blanche pour remporter ce marché. Cinq sociétés sont en compétition, Boeing FA-18EF Super Hornet, Lockheed Martin F-35 Lightning II, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon et Saab Gripen E&F. Cependant, vu le scandale occasionné par la rupture unilatérale du contrat des sous-marins achetés par l'Australie, annulé par le pacte AUKUS, et vu l'incident entre la France et la Suisse à propos de l'achat d'avions états-uniens F-35 et non pas français Rafale, l'administration Biden envisage de laisser gagner la France en Finlande à titre de lot de consolation. Selon son texte The Tank, et le matin dimanche, le président Emmanuel Macron aurait fait annuler cette semaine le sommet prévu en novembre avec le président du Conseil fédéral, Helvète Guy Parmelin. L'ambassadeur de France à Berne, Frédéric Journès, aurait précisé qu'il n'y aurait pas de contact à ce niveau durant le premier semestre 2022, c'est-à-dire pendant la présidence française du Conseil européen. Sans convaincre, l'Élysée a démenti cette information, prétextant un problème de calendrier. Il y a toujours une première fois, et pour la première fois, le président turc a accusé publiquement la Russie d'occuper la Crimée. La Turquie d'Erdogan prétend être en bon terme avec la Russie, mais cela n'a pas empêché le président turc d'essayer d'humilier la Russie devant l'Assemblée générale des Nations unies, déclarant que la partie russe occupait la Crimée. Selon Erdogan, la Turquie n'a pas l'intention de reconnaître la transition de la péninsule vers la souveraineté russe, exhortant apparemment les autres pays à suivre un exemple similaire. Une telle déclaration du dirigeant turc pourrait causer de graves problèmes à Ankara, notamment dans le contexte de la visite prévue de Recep Tayyip Erdogan en Russie et de l'attaque imminente d'Idlib par les armées syriennes et russes. S'adressant à l'ONU, le dirigeant turc a particulièrement insisté sur le fait que la péninsule de Crimée a été capturée par la Russie et Ankara défend l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Ce qui soulève désormais de nombreuses questions de la part de la Russie. Quant à savoir si la Turquie est vraiment un partenaire russe, nous attachons de l'importance à la protection de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Ukraine, y compris la Crimée, dont nous ne reconnaissons pas la saisie, a déclaré le président turc. Depuis que le dirigeant turc a décidé de soulever cette question à l'Assemblée générale des Nations unies, les experts estiment que de nouvelles sanctions pourraient être introduites contre la partie russe. Cependant, apparemment, Erdogan a délibérément pris une telle mesure dans l'intention de créer des problèmes supplémentaires pour la Russie.